de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Évacuation des citoyens indonésiens de Gaza continue d'être tentée. Investisseurs étrangers intéressés à investir dans l'aéroport de Kertajati. PHE remporte un prix à la Taiwan Innotech Expo pour l'innovation énergétique. Industrie automobile indonésienne joue un rôle important dans l'économie nationale. Premier jour, TEI imprime 99 contrats commerciaux d'une valeur de 4,9 milliards de dollars américains. Le ministre du Commerce déclare que l'Indonésie et la Chine conviennent d'accroître la coopération commerciale. Et Poutine accepte l'invitation à se rendre au Vietnam. Bonjour, je te revois, les nouvelles en complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, dans un communiqué de presse mercredi 18 octobre, a souligné que l'évacuation des 10 citoyens indonésiens de la bande de Gaza continue d'être tentée chaque jour au milieu de l'escalade croissante dès le conflit israélo-palestinien. Elle a également déclaré qu'elle continuerait à communiquer avec le Comité international de la Croix-Rouge et divers parties susceptibles d'aider à évacuer les citoyens indonésiens en toute sécurité. Selon les données du ministère indonésien des Affaires étrangères, les 10 citoyens indonésiens toujours coincés à Gaza sont 3 volontaires du comité de secours médical d'urgence, ou MERCI, qui se trouvent à l'hôpital indonésien et 7 personnes de familles indonésiennes mariées aux résidents locaux. L'évacuation des 10 citoyens indonésiens ne pourra avoir lieu que si un cessez-le-feu est conclu entre Israël et la Palestine, qui sont à nouveau impliqués dans des combats majeurs depuis que les troupes palestiniennes du Hamas ont attaqué le territoire israélien le 7 octobre. Auparavant, le 13 octobre 2023, le gouvernement avait réussi à évacuer 4 citoyens indonésiens de Cisjordanie ou Gaza et des environs. Le ministre des Transports de la République d'Indonésie, Budi Karya Sumadi, après avoir effectué une inspection à l'aéroport de Kertajati dans la région de Majalengka, à l'ouest de Java, a déclaré mercredi 18 octobre qu'un certain nombre d'investisseurs étrangers étaient intéressés à investir dans le développement de l'aéroport. Parmi eux figurent des investisseurs indiens, saoudiens et singapouriens. Tel que rapporté par Antara, Budi a déclaré qu'un certain nombre d'investisseurs étrangers étaient très intéressés à investir dans l'aéroport de Kertajati. En fait, la majorité souhaitait participer à la gestion des installations aéronautiques. Budi a révélé que cela avait reçu l'approbation du gouvernement provincial de Java West et du président Joko Widodo et que sa réalisation était prévue pour décembre 2023. Le ministre des Transports a estimé que l'intérêt des investisseurs pour l'aéroport de Kertajati avait montré le potentiel de renommée de l'aéroport sur la scène internationale et son développement pourrait dynamiser l'économie nationale. En outre, Budi a déclaré que l'existence de l'aéroport de Kertajati pourrait également déclencher la croissance économique des zones tampons environnantes. Il est optimiste quant au nombre d'avions occupés à l'aéroport de Kertajati qui augmentera à l'avenir. Pertamina Hulu Energy SA, une filiale de Pertamina, a remporté 4 prix à la Taiwan Innotech Expo TIE 2023 liée à l'innovation pour l'industrie énergétique. Cet événement s'est tenu du 12 au 14 octobre au Taiwan World Trade Center à Taipei, à Taïwan. Le directeur des ressources humaines et du soutien aux entreprises de Pertamina Hulu Energy, Otto Gurnita, dans un communiqué reçu à Jakarta mercredi 18 octobre, a déclaré que le succès de PHE à l'événement TIE 2023 est une reconnaissance de son existence à l'échelle internationale et c'est également une preuve de sa contribution à la croissance et au développement du secteur énergétique. Selon lui, ce prix est une forme d'appréciation externe pour la performance de Pertamina Hulu Energy SA, matière d'augmentation de la production et d'innovation. Et c'est une preuve des efforts de l'entreprise pour réaliser le progrès technologique et de son engagement à soutenir la sécurité énergétique nationale. Le prix a été remis directement par le directeur général de l'Agence de la priorité intellectuelle de Taïwan, Cheng Wei-liang, lors d'une cérémonie de remise de prix qui s'est tenue samedi 14 octobre. TIE 2023 est l'un des principaux salons de l'innovation à Taïwan et en Asie, auquel participent plus de 600 participants de 23 pays. Le vice-ministre indonésien du commerce, Jerry Sambuaga, était conférencier lors du déjeuner d'affaires à l'exposition commerciale indonésienne organisée par le ministère du commerce en collaboration avec l'un des constructeurs automobiles à l'exposition de la convention indonésienne BSD City Tangerang Banten mercredi 18 octobre. Jerry a déclaré que l'industrie automobile indonésienne joue un rôle important dans l'économie nationale, en particulier dans les activités d'exportation. L'industrie automobile absorbe également un grand nombre de travailleurs qualifiés, produisant ainsi un effet multiplicateur important sur l'économie régionale et nationale, compte tenu de son grand potentiel et de sa tendance à la croissance significative. Il existe encore des opportunités pour diverses collaborations commerciales internationales afin d'ouvrir un accès plus large au marché pour les exportations indonésiennes, y compris le secteur automobile. En outre, a déclaré Jerry en 2022, l'industrie automobile contribuera à près de 4% des exportations totales de l'Indonésie. Parallèlement, entre janvier et juillet 2023, les exportations automobiles indonésiennes ont atteint 6,2 milliards de dollars, soit une croissance de 11% par rapport à la même période de 2022 pour un montant de 5,6 milliards. Le ministère du Commerce a noté que le premier jour de la 38e foire commerciale TEI d'Indonésie, il avait réussi à imprimer 99 contrats commerciaux d'une valeur de 4,9 milliards de dollars américains. Le vice-ministre indonésien du commerce, Jerry Sambuaga, à l'exposition de la convention indonésienne BSD City Tangerang Banten, espère mercredi que la signature du contrat commercial pourra produire des transactions concrètes et durables. La signature des contrats commerciaux a cette fois impliqué 18 pays partenaires. Les 5 transactions les plus importantes proviennent de l'Inde, puis des Pays-Bas, du Japon, de la Malaisie et des États-Unis. Jerry a également précisé que les produits indonésiens inclus cette fois dans les contrats commerciaux comprennent des produits à base d'huile, de palme, des aliments et des boissons, des produits en papier, des meubles, des panneaux solaires, des produits de la pêche, du charbon, des produits à base économique et les parties prenantes indonésiennes pourront continuer à établir des relations commerciales meilleures et plus étroites avec leurs partenaires à l'étranger. Le ministre du Commerce Zulkifli Hassan, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping au Grand Palais du Peuple à Pékin mardi 17 octobre, a déclaré que l'Indonésie et la Chine étaient convenus d'augmenter la coopération de commerce et des investissements. Dans une déclaration écrite à Tangerang Banten, mercredi 18 octobre, Zulkifli a mentionné 10 collaborations d'investissement dans divers domaines, notamment la défense, les voitures électriques, la sécurité énergétique et la coopération sur le développement des villages et la réduction de la pauvreté. Zulkifli a déclaré que le président avait soulevé un certain nombre de questions lors de sa rencontre avec le président Xi Jinping. Il s'agit notamment d'efforts visant à accroître la coopération en matière d'investissement, en particulier dans les domaines des batteries de véhicules électriques et automobiles, des usines de pièces détachées, des raffineries pétrochimique et de la production d'acier. En outre, le président espère le soutien de la Chine pour mettre en œuvre une coopération électrique collaborative entre les deux pays et augmenter le nombre de touristes en provenance des deux pays. Zulkifli a estimé que cette visite en Chine a été assez réussie, marqué par le Forum des affaires Indonésie-Chine, qui a généré un potentiel commercial de près de 13 milliards de dollars américains, ou bien 204,8 billions de roupies. L'agence de presse vietnamienne VNA a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait accepté l'invitation du président vietnamien Vo Van Thuong a visité ce pays d'Asie du Sud-Est. Lors de leur rencontre mardi en marge du Forum de la Ceinture et de la Route à Pékin, cité par Antara mercredi 18 octobre, le président vietnamien Vo Van Thuong a invité Poutine à visiter le pays bientôt et Poutine a accepté avec joie l'invitation. Les deux dirigeants du pays se sont rencontrés mardi 17 octobre au premier jour du forum tenu à Pékin en Chine. Le forum a réuni des représentants de plus de 130 pays pour entendre le président chinois Xi Jinping exposer sa vision de la prochaine étape de sa politique majeure de construction d'un réseau mondial d'infrastructures et énergie. Cette visite à Pékin est la deuxième de Poutine depuis que la Cour pénale internationale, CPI, a émis un ordre de détention à son encontre en mars. Selon la NV, les deux dirigeants sont convenus d'approfondir leur coopération dans divers secteurs, notamment le commerce, la sécurité et la défense. Environ 80% de l'arsenal vietnamien provient de Moscou et les deux pays discutent de la possibilité d'un nouvel accord d'achat d'armes. Bon, changer d'art, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le cahier diplomatique ayant pour le titre « Développant les ressources humaines maritimes, l'Indonésie distribue des subventions de développement à la Namibie ». Soutenant le développement des pays en développement, le gouvernement indonésien accorde des subventions de développement qui sont distribuées à travers de la facilitation des représentants indonésiens dans diverses régions en collaboration avec l'Institut indonésien de fonds de coopération au développement. L'une de ces subventions de développement a été accordée à la Namibie le 16 octobre à travers la visite de la directrice par intérim de l'Institut namibien de la mer et de la pêche, Namfi Julia Manuel Ibuima, à l'ambassade d'Indonésie à Windhoek. Un accord de subvention du gouvernement indonésien au Namfi a été signé sous la forme du renforcement des capacités de la formation des formateurs TOT de court type de l'Organisation maritime internationale OMI 6.09. Le coordinateur des fonctions d'information sociale et culturelle de l'ambassade d'Indonésie à Windhoek, Ari Hadiman, a salué la signature de l'accord de subvention. Selon lui, le programme de formation TOT IMO Model Course 6.09 renforcera les ressources humaines de la Namibie dans le secteur maritime et ouvrira d'autres opportunités de coopération dans le secteur maritime. Pendant ce temps, la directrice de l'Institut namibien de la mer et de la pêche, Namfi Julia Manuel, a déclaré que le Namfi fournirait bientôt des noms complets des participants à la formation TOT qui participeront aux activités à Jakarta en novembre 2023. Elle a exprimé en révélant les étapes de suivi pour mettre en œuvre l'accord de subvention. TOT IMO Model Course 6.09 09 est une formation destinée aux instructeurs du secteur maritime. Grâce à cette formation, on espère que la capacité et la qualité des instructeurs de NAMFI augmenteront afin qu'ils puissent former des travailleurs de qualité dans le secteur maritime. L'activité de formation TOT IMO Model Cruise 6.09 sera suivie par Vengnami Biang. Cette activité devrait être organisée par l'Agence de développement des ressources humaines du ministère des Transports à Jakarta en novembre 2023. C'est Jurita, c'est à l'accueil diplomatique pour ce soir. C'est Jurita, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 octobre 1937. Ernest Rutherford, physicien et prix Nobel de chimie, décède. Ernest Rutherford est un physicien né en Nouvelle-Zélande qui a collaboré à la recherche atomique avec J.J. Thomson à l'Université de Cambridge, Angleterre. Rutherford est décédé le 19 octobre 1937. Il a réussi à détecter le noyau de l'atome. Avec le soutien de Frédéric Soddy, il suggéra que la radioactivité provenait de la désintégration des atomes. Il fut le premier à réaliser avec succès une fission atomique en laboratoire. En 1908, il reçoit le prix Nobel de chimie pour ses recherches sur différents types de rayonnement. Passons maintenant à l'événement du 19 octobre 1987, tragédie de Bintaro. La collision du train Bintaro en 1987, connue sous le nom de tragédie Bintaro 1, est un accident tragique impliquant deux trains dans la région de Pondok Betung, Bintaro, au sud de Jakarta, le 19 octobre 1987. De l'histoire des chemins de fer indonésiens, cet accident était le pire. L'accident a également attiré l'attention du monde entier. Environ 156 personnes ont été tuées dans cet accident et plus de 300 blessés. Les résultats de l'enquête montrent la négligence des agents de la gare de Sudimara qui ont fourni un signal de sécurité pour le train en direction de Rangkas Bitung, même s'il n'y a aucune déclaration de sécurité de la gare de Kebayoran. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 19 octobre 2005, le procès de Saddam Hussein a commencé. Saddam Hussein a été président de l'Irak du 16 juillet 1979 au 9 avril 2003. Son règne a pris fin après l'invasion de l'Irak par la coalition militaire dirigée par les États-Unis. Saddam Hussein a débuté son procès le 19 octobre 2005. Dans cette affaire, Saddam et sept autres accusés ont été jugés pour crimes contre l'humanité lors des événements qui ont suivi l'assassinat raté de Dujail en 1982. Après avoir été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, il a été condamné à mort et exécuté le 30 décembre 2006. C'est Jurita, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Takkan ku
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la brique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « La transition énergétique a un rôle important dans l'atténuation du changement climatique ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts a déclaré que la transition énergétique joue un rôle important dans l'atténuation du changement climatique. La directrice de l'atténuation du changement climatique au ministère de l'Environnement et des Forêts, Yulia Suryanti, a déclaré que l'Indonésie avait mis en place une augmentation de la contribution déterminée au niveau national, ENDC, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES, avec l'un des secteurs de soutien, à savoir l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, EBT. Julia expliquait qu'il existe au moins trois stratégies pour parvenir à une réduction des GES de 31,89% en 2030 sans l'aide d'autres pays. Premièrement, en réduisant les émissions de carbone dans le secteur énergétique, vous pouvez utiliser l'énergie de la biomasse. Deuxièmement, l'utilisation de carburants à faible émission, comme la conversion de la corésine en GPL, et troisièmement, l'efficacité énergétique en utilisant des véhicules électriques. En outre, elle a déclaré que dans la stratégie à long terme bas carbone et résilience climatique LTS-LCCR en 2050, le scénario de réduction des émissions de carbone conformément à l'accord de Paris ou l'accord mondial pour lutter contre le changement climatique pourrait atteindre l'objectif le plus élevé si l'absorption nette de carbone était supérieure au dioxyde de carbone produit ou puits net follow. Selon elle, la réalisation de follow net sink doit également être réalisée simultanément aux efforts de transition énergétique. Elle a déclaré que l'assemblée de ce scénario avait été réalisée pour atteindre la neutralité carbone en 2060 ou avant. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, le satay, plat culinaire à base de viande coupée en petits morceaux et embroché avec un bâton de bambou, est très populaire en Indonésie. Il existe une grande variété de types culinaires avec des variations dans les ingrédients principaux. En général, le satay est composé de poulet, de chèvre et de bœuf avec de la sauce soja ou de la sauce cacahuète. Si vous visitez l'ouest de Jawa, comme Garut, Tasik, Sumedang, Banjaran, Pangandaran et Ciamis, vous trouverez un type de saté unique car il est fabriqué à partir de peau de buffalo. Il s'appelle saté jebret. Chers auditeurs, le saté jebret est fabriqué à partir de peau de vache ou de buffalo préparé par ébullition, friture ou grillade. Ensuite, la peau de vache ou de buffalo est transformée, reçoit un assaisonnement serundeng ou une sauce okzarachit. Serundeng est un plat d'accompagnement aux cuisines à base de noix de coco râpées, assaisonnées d'épices et rôties jusqu'à ce qu'elles soient sèches et brunes. La texture de cette peau de vache est dure à la morsure. C'est pourquoi ce plat culinaire est nommé jebret. En soudanaise, jebret signifie rebondir de nouveau. Le saté jebret lui-même a un goût salé, sucré et savoureux, issu d'une combinaison surrounding de noix de coco et de diverses épices. Chers auditeurs, habituellement, le saté jebret est beaucoup vendu sur le marché traditionnel. Le saté jebret peut être consommé directement, mais cette collation peut également être utilisée comme accompagnement du riz, car elle a un goût savoureux. De plus, l'ajout de serundeng peut rendre le riz blanc encore plus délicieux. Le saté jebret est vendu par paquet pour 5 000 à 10 000 de rupiah. Un paquet contient 5 à 10 brochettes de saté jebret. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Saat ku kuat terjatuh. ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Mungkin ku tak selalu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu di dalam hatiku. Tiada yang lain selain cinta. Saat ku kuat dan jatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter la merveilleuse mosquée d'Indonésie et catalogue. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, récemment a lancé le catalogue électronique de la merveilleuse mosquée d'Indonésie. Sandiaga a déclaré que le but du lancement de ce catalogue électronique était de fournir des informations aux touristes sur les mosquées qui sont des destinations touristiques religieuses en Indonésie. Selon Sandiaga, l'une des destinations préférées en Indonésie sont les belles mosquées et jusqu'à présent, les mosquées en Indonésie ne sont pas encore désignées comme tourisme favorable aux musulmans. Par conséquent, avec le lancement de ce catalogue électronique, les mosquées seront encouragées à devenir des attractions touristiques afin que de nombreux touristes visitent certaines régions d'Indonésie. On espère également créer de nouveaux itinéraires de destinations touristiques, notamment l'exploration de l'archipel en visitant des mosquées iconiques. « Sandiaga Uno a ajouté que même si elle est gérée comme une attraction touristique, cette gestion ne doit pas abandonner sa fonction principale de lieu de culte. Il expliquait le long voyage à travers différents types d'acculturations culturelles rendant les mosquées en Indonésie uniques et diversifiées. Les mosquées en Indonésie, selon Sandiaga, sont des institutions religieuses qui ne peuvent pas être séparées de la vie sociale de la société. En plus d'être un lieu de culte, la mosquée fonctionne également comme un lieu de discussion, d'activités commerciales, d'éducation et d'autres activités sociales. Ce catalogue électronique ne peut pas encore accueillir le grand potentiel des autres mosquées en Indonésie, mais le ministère du Tourisme et de l'Économie créative espère que le lancement de ce catalogue électronique pourra être une motivation pour les administrateurs de mosquées de toute l'Indonésie à promouvoir leurs mosquées. Ce catalogue électronique contient des informations sur 74 mosquées de 16 provinces d'Indonésie qui ont des attractions touristiques potentielles basées sur 7 catégories thématiques, à savoir la valeur historique, la valeur architecturale, la valeur culturelle, la valeur d'agrément, la valeur éducative et religieuse, la valeur des destinations de pèlerinage, la valeur entrepreneur social et la valeur sociale. Ce catalogue électronique peut être téléchargé via le site www.indonesia.travel. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Cairkan keluhanku dari semua. membuatku
of Indonesia.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupa. Masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini.
Tegak, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Cette fois, nous vous présentons une chanson de Jinga. Jinga est un duo formé en 1995 et dissous en 1997. Ce duo était composé de Fei Utomo et Terry Mouly. Leur premier album intitulé Tentang Aku est sorti en 1995. La chanson phare de l'album porterait le même titre, intitulé Tentang Aku. Cette chanson a été chantée et réenregistrée par plusieurs autres artistes, entre autres Andien, Up on the Roof, Nubika, ainsi que par Fei Utomo. Fei a réenregistré cette chanson en 2018 dans le cadre de la bande originale du film Aruna dan Lidahnya. Mon cher auditeur, voici une chanson intitulée Tentang Aku, chantée par Jinga. Bonne écoute.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.